Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, 100 ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez. 100 ans de solitude relate l'histoire de la famille Buendia sur 6 générations, dans le village imaginaire de Macondo. Ce village est fondé par plusieurs familles, conduites par José Arcadio Buendia et Ursula Iguaran, un couple de cousins qui se marièrent et eurent 3 enfants, José Arcadio, Aureliano et Amaranta, prénoms qui se répéteront aux générations suivantes. Des débuts de la petite cité à sa décadence, on suit le destin de la famille Buendia, de ses innombrables enfants, ses garçons têtus, entrepreneurs, ses filles belles comme le jour. Les mariages se succèdent, les adultères aussi. Certaines filiations se perdent dans l'oubli, d'autres ne sont jamais découvertes et certaines unions semblent contre nature. Pendant des décennies, Ursula règne en matrone sur la famille et assiste aux folies de ses enfants. À chaque naissance, on craint toujours que les enfants naissent avec des queues de cochon, signe d'une alliance incestueuse. L'histoire du pays influe sur le village, qui se déchire entre conservateurs et libéraux. Sous le joug de la malédiction de Melquiades, la famille Buendia et son innombrable descendance sont prisonnières de Macondo pour un siècle entier. Ce microcosme est ébranlé par des cataclysmes bibliques, dévasté par la folie des hommes et aussi secoué par 1000 petits drames au bonheur quotidien. Si l'irréel se mêle constamment au récit, ce n'est pas sous la forme de l'épopée ou du fantastique, mais d'un merveilleux à caractère symbolique qui s'apparente le livre à la parole évangélique ou au conte enfantin. Curieusement, la simplicité d'esprit, souvent fortement teintée d'humour, qui préside au récit, loin d'aboutir à une schématisation abusive de la réalité colombienne, nous en restitue toute l'attachante ou l'horrible complexité. Gabriel Garcia Marquez est né en 1927 en Colombie, à Arataca, et est élevé par ses grands-parents. Son grand-père est un vétéran de la guerre des 1000 jours, à laquelle il a participé dans le camp libéral. La guerre des 1000 jours de 1899 à 1902 est la guerre civile la plus importante ayant frappé la Colombie et le Panama alors département de la Colombie et qui deviendra indépendant. Le grand-père apporte au jeune Gabriel un important savoir scolaire, culturel, historique et littéraire. À la demande de son père, Garcia Marquez entreprend des études de droit qu'il abandonne très vite pour devenir journaliste. Il débute en 1948 et rédige aussi son premier roman, « Des feuilles dans la bourrasque », publié en 1955. Cette expérience journalistique est fondamentale pour son travail d'écrivain et lui permet d'être au plus près de la réalité. À la même époque, Garcia Marquez se nourrit également des œuvres de Virginia Woolf, William Faulkner ou James Joyce. Les techniques narratives, les thèmes historiques, la dimension mystérieuse, symbolique et irrationnelle, l'enracinement dans le terroir ou la localisation provinciale marquent beaucoup d'auteurs latino-américains de cette génération. En 1961, l'écrivain et sa famille s'installent au Mexique, qui devient la patrie d'adoption de l'écrivain. Il y rédige son chef-d'œuvre, « 100 ans de solitude », en 1967, qui le rend célèbre. L'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa définit le nouveau roman de Garcia Marquez comme le plus grand roman de chevalerie d'Amérique latine. Avec son roman « 100 ans de solitude », l'écrivain colombien devient en Espagne l'icône d'un nouveau courant littéraire, dit le boom latino-américain. À Barcelone, il fréquente d'autres exilés hispano-américains, tels Julio Cortázar. Il publie ensuite « L'automne du patriarche » en 1975, puis « Chronique d'une mort annoncée » en 1981. Il reçoit en 1982 le prix Nobel de littérature. Couronné à 55 ans, García Márquez devient en 1982 l'un des plus jeunes lauréats du prix Nobel, ainsi que le premier Colombien et le quatrième auteur latino-américain à obtenir cette récompense, après Gabriel Mistral en 1945, Miguel Ángel Asturias en 1967 et Pablo Neruda en 1971. Lui succèdent par la suite le Mexicain Octavio Paz et le Péruvien Mario Vargas Llosa en 2010. Un de ses grands romans, L'amour au temps du choléra, est publié en 1985. Durant sa vie, le romancier noue des relations étroites avec nombre de personnalités, dont Fidel Castro et François Mitterrand. En 1999, on lui diagnostique un cancer et il commence à rédiger ses mémoires sous le titre de « Vivre pour la raconter », dont le premier tome paraît en 2002. L'écrivain décède le 17 avril 2014 à Mexico et 3 jours de deuil national sont déclarés en Colombie. Sa dépouille est incinérée dans la capitale mexicaine le jour même de sa mort. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanche, énorme, comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village, et dans un grand tintamarre de fivres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant, un gros titan à la barbe broussailleuse et aux mains du moineau, qui répondait au nom de Melquiades. Fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la 8e merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui 2 lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés et se traînaient en débandade turbulente derrière des fers magiques de Melquiades.
« Les choses ont une vie bien à elles !»
clamait le gitan avec un accent guttural.
« Il faut réveiller leur âme, toute la question est là !»
José Arcadio Buendía, dont l'imagination audacieuse allait toujours plus loin que le génie même de la nature, quand ce n'était pas plus loin que les miracles et la magie, pensa qu'il était possible de se servir de cette invention inutile pour extraire l'or des entrailles de la terre. Melquiades, qui était un homme honnête, le mit en garde.
« Ça ne sert pas à ça !»
Mais José Arcadio Buendía, en ce temps-là, ne croyait pas à l'honnêteté des gitans et il troqua son mulet et un troupeau de chèvres contre les 2 lingots aimantés. Ursula Iguaran, sa femme, qui comptait sur ses animaux pour agrandir le patrimoine domestique en régression, ne parvint pas à l'en dissuader. « Très vite, on aura plus d'or qu'il nous en faut pour paver toute la maison », rétorqua son mari. Pendant plusieurs mois, il s'obstina à vouloir démontrer le bien fondé de ses prévisions. Il fouilla la région pied à pied, sans oublier le fond de la rivière, traînant les 2 lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu'avait employées Melquiades. La seule chose qu'il réussit à déterrer, ce fut une armure du 15e siècle, dont tous les éléments étaient soudés par une carapace de rouille et qui sonnait le creux comme une énorme calebasse pleine de cailloux. Quand José Arcadio Buendía et les 4 hommes de son expédition parvinrent à désarticuler l'armure, ils trouvèrent à l'intérieur un squelette calcifié qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une mèche de cheveux de femme. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.